Chronique citoyenne avec Sébastien Saint-François.
7h30, bonjour Sébastien Saint-François.
Salut Charles.
Comment vas-tu?
Ça va bien.
Bon, on parle de taxes municipales. Ça va-tu directement là?
Oui, on commence avec ça. Bon, je
répète. Hier, chronique de Tommy Tébel sur les hausses puis
j'ai écouté Tommy hier.
Et moi, j'ai eu un shot pendant cette chronique-là.
Ben oui, je sais, je l'ai entendu en direct. Écoute, bon, première des choses, je ne répéterai pas tout ce que Tommy a dit hier. Je veux aborder un autre aspect d'ailleurs ce matin. Mais c'est sûr, bon, j'ai lu beaucoup de commentaires sur la page Facebook de la ville quand c'est sorti. Il y a beaucoup de citoyens qui ne comprennent pas. Là. C'est pas parce que le rôle a augmenté de 38 % que votre compte de taxe va augmenter de 38 %.
C'est une moyenne.
En fait, dans certains cas, votre compte pourrait baisser. Moi, ça m'est déjà arrivé. Suite à la publication d'un rôle, mon compte de taxe a légèrement baissé. Pourquoi? Parce que ma hausse était légèrement inférieure à la hausse moyenne. Okay. Donc, c'est sûr que si votre maison a augmenté, comme il y a une dame de Longueuil qui m'a envoyé une capture d'écran, 67 % elle va y goûter. Parce que ça veut dire qu'elle est beaucoup plus élevée que la moyenne.
45 moi.
Bon, 45, tu vas y goûter aussi parce que si la hausse est de 38, t'es au-dessus. Moi, je suis à 29, je suis pas pire. Si j'ai bien calculé. Moi, ma préoccupation, c'est sûr que les villes ne sont pas responsables de ça. La hausse des valeurs, c'est le marché, puis on sait que le marché a été fou. Hein? On parle de l'année de référence 2023, le 1er juillet 2023, on était encore dans la folie, puis tout ça. Donc, c'est le marché qui alimente ça, c'est pas les villes. Mais moi, mon inquiétude, puis c'est ça dont je veux parler principalement ce matin, c'est au niveau des droits de mutation, la fameuse taxe de bienvenue, qui est un de mes sujets dada, que je trouve, puis j'ai pas peur de le dire, là, ça atteint des sommets indécents. Là. Les montants que les gens paient. Moi, je connais quelqu'un qui a récemment acheté une maison de 750 000 à Boucherville, puis on s'entend que ce n'est pas un palais. 750 000, là, il y a un bungalow bien ordinaire qui s'est vendu dans la rue voisine de la mienne, un flip immobilier. Bien ordinaire, là. Même pas de garage. Là. Puis il était listé à 750. C'est-tu vendu à 750, mais il s'est vendu pas loin de là. Fait qu'on s'entend que c'est pas un palais. Écoute, la facture, puis je suis allé sur le site pour calculer le droit de mutation, là. La facture que le propriétaire reçoit, c'est payable dans les 30 jours. 13 232,50. À Longueuil, pour une maison de 750 000, la facture est de 11 894,50. Ça, c'est de l'argent, rappelons-nous, c'est de l'argent net. T'as déjà été imposé là-dessus. Tu peux pas l'ajouter à ton hypothèse. Faut que tu payes ça straight, puis tu as 30 jours payés. Pourquoi c'est de même? Parce que la fameuse taxe de bienvenue, c'est le ministre Bienvenu qui s'appelait dans les années 70 qui a fait adopter ce projet de loi-là. Et le problème, c'est qu'on a des tranches, hein? Et on a des taux par tranche. On avait trois tranches à l'époque. La première tranche allait jusqu'à 58 900. On s'entend-tu que rien qui s'achète à ce prix-là aujourd'hui? Bon, on était à 0,5 % d'imposition. Ensuite, tu tombais à 1 % puis ensuite, tu tombais à 1,5 % Fait que les riches, là, qui avaient des maisons de pas loin de 200 à 300 000, payaient un gros taux. Mais aujourd'hui, là, tu trouves rien à ce prix-là. Fait que tout le monde, automatiquement, arrive au sommet. Et le encore plus odieux, c'est que bien des municipalités, dont Longueuil, dont Boucherville, ont rajouté une quatrième tranche, quatrième tranche à 3 % Par exemple, à Longueuil, sur la tranche qui excède 589 200, t'es imposé à 3 % de la valeur qui excède. À Boucherville, c'est 500 000. Dès 500 000 à Boucherville, tu tombes à 3 % Fait que là, on se trouve avec des comptes. Les gens reçoivent des comptes qui n'ont pas de bon sens. Et je m'excuse, là, mais on s'en va vers un mur. Les municipalités se tirent dans le pied parce qu'ils sont en train de freiner. Tu y penses à deux reprises là, avant de dire « Je vais mettre ma maison à vendre puis je vais aller m'acheter ailleurs. » Parce que tu sais que tu as un espèce de compte monstre qui t'attend.
Ben oui, t'as une taxe de bienvenue puis t'as plein d'affaires aussi. Si t'as des rénaux, comme les jeunes qui achètent des maisons actuellement, ils ont des rénaux à faire.
Oui, rénaux, notaires, déménagement. Mais juste les droits de mutation. Et j'ai fait un petit exercice, puis c'est un exercice simpliste, là, puis c'est un exercice non scientifique. Mais j'ai pris, mettons, la maison, parce que Longueuil, vous pouvez aller sur le site web de la ville de Longueuil. Ils ont une feuille de calcul des droits de mutation, vous allez avoir le montant à la scène près que ça va vous coûter.
Oui, tout ça, vous pouvez tout aller consulter.
Et
ça,
c'est toujours, rappelons-nous, c'est toujours en fonction de la valeur la plus élevée entre l'évaluation municipale et le prix de vente. Donc, on s'entend que c'est toujours calculé sur les prix de vente. Les maisons qui se vendent à l'évaluation ou sous l'évaluation, c'est très rare. Ça veut dire qu'il y a une méchante anomalie avec cette maison-là. Bon. Donc, ta maison de 750 000, là, si, mettons, je l'augmente, parce que c'est sûr que le nouveau rôle sort, donc ça va pousser les prix vers la hausse à nouveau parce que les maisons se vendent toujours plus plus cher que l'évaluation. Donc, ma maison de 750 000, j'ai appliqué un 38 % disons, d'augmentation dessus.
Okay.
Elle se vend désormais, elle vaut, entre guillemets, sur le marché, 1 035 000. Taxe de bienvenue, 20 444,50 soit une augmentation de 8 550 par rapport à l'ancien rôle. Donc, 72 % d'augmentation de la facture des droits de mutation. C'est épouvantable. Non, mais moi, je trouve ça carrément indécent. Et je me rappelle le maire Martel à Boucherville, pendant des années, il se prêtait les bretelles à chaque présentation de budget. Ah, on avait sous-évalué les droits de mutation. On a fait beaucoup de millions avec les droits de mutation. Mais là, c'est en train de leur jouer des tours parce que le marché immobilier a beaucoup ralenti. Et on le voit, l'année passée, le surplus chez nous n'a été que de 1,5 million.
Ben pendant ce temps-là, les municipalités ont besoin d'argent. Parce que tout est pelleté dans le cours des municipalités au final par les gouvernements.
C'est pas viable. Il va falloir trouver. Puis le gouvernement, le problème, c'est que le gouvernement provincial ne veut pas toucher à ça. Hein, ça. Non, occupez-vous. Les villes, occupez-vous-en. Puis les villes sont poignées, disent, ben là, on a besoin d'argent. Mais je veux dire, c'est insoutenable. Là. Les gens ne peuvent pas payer des factures comme ça là, dans les 30 jours. Puis c'est bien écrit. J'ai été voir sur le site de la ville de Longueuil. Tu as 30 jours pour payer ta facture, puis tu la reçois assez vite après ta transaction notariée.
Bon, on va se retrouver dans un campement.
Il y en a qui vont nous arracher à un moment donné. Là.
Et c'est même pas une blague. Québec, la libérale Marois Risky quittera la vie politique à la fin de son mandat. Elle a annoncé ça. C'était très émotif.
C'était digne la façon qu'elle l'a fait. Écoute, moi, je ne suis pas un libéral. Je ne suis pas un fan du PLQ. Mais j'aimais bien Mme Risky. Je trouvais qu'elle était solide comme députée. Elle était intègre. Elle était. On voit qu'elle
faisait. Elle est là jusqu'en 2026, parce que ça aussi, ça a l'air de te plaire, parce qu'elle va finir son mandat.
C'est ce qu'elle dit. Est-ce qu'elle va être capable... Tu sais, ses enfants, 2 ans, c'est long. Là. Elle vient d'accoucher là, de son plus jeune.
Ouais, peut-être qu'elle s'est négociée moins de responsabilités à l'intérieur même de son parti aussi. Là.
Je ne sais pas, mais à l'écouter, est-ce qu'elle va être capable émotivement de tenir le coup pendant 2 ans? Espérons-le. Mais on a même appris que son mari avait proposé de quitter. Oui, parce que la particularité de ce couple-là, c'est que les deux sont députés du PLQ.
Tout à fait.
Alors, ils ont les mêmes contraintes d'horaire. C'est vraiment spécial comme situation. C'est sûr que ça porte un coup dur au PLQ, là, je pense. Puis même des députés et des ministres de tous les partis ont souligné que c'est une grosse perte pour l'Assemblée nationale. Des députés comme elle, on en aurait besoin de plus.
Conciliation, travail, famille, charge mentale pour les députés.
Ça démontre que c'est très difficile, la politique. Puis faire le job de député et encore plus de ministre,
c'est très difficile. Il va falloir se questionner ça aussi. Il va falloir questionner le modèle. Comment on peut faire?
Qu'est-ce qu'on veut comme représentation à l'Assemblée? Parce que si on veut juste des retraités qui ont le temps, puis les jeunes.
Il n'y aura qu'un seul modèle de député.
Ben, c'est ça. Là, ça soulève des questions.
Des vieux garçons, des vieilles filles, puis des retraités.
Je pense que c'est Jean Lapierre qui disait ça. Feu Jean Lapierre. Il disait, il y a deux moments dans la vie pour faire de la politique. Quand t'es jeune, puis t'as rien à perdre. Puis quand t'es retraité, puis t'as rien à perdre. Entre les deux, c'est compliqué un petit peu. Puis c'est vrai. Exemple, t'as 40 ans, tu te lances en politique, c'est un pensée bien. Hein? C'est
tu abandonnes bien des affaires.
Tu sais, je regarde M. Milliard.
Tu négliges ta famille, clairement.
Je regarde M. Milliard, qui est dans la course à la direction pour le PLQ. Il est à peu près dans 40 ans. Oui. Mais là, je suis content... Comme je te dis, je voterai pas à cette course-là. Je suis pas membre du PLQ du tout. Mais je suis content parce qu'il a reçu l'appui de 2 députés, là. Donc, ça commence à monter son affaire. Moi, je le vois bien comme chef du PLQ avant Pablo Rodriguez. Ouais. Solide économiquement.
C'est un ancien stagiaire dans une firme que possédait Jean-Marc Léveillé.
Bon. Mais c'est vraiment quelqu'un qu'il est très bien. Il est très bien. Il est très solide aussi comme portrait économique, beaucoup plus que Pablo Rodriguez. Puis je pense que le PLQ, s'il veut se redéfinir comme le parti de l'économie, ben, a besoin d'un chef avec un profil économique solide. En tout cas, ça sera à suivre, mais je suis content de voir que ça commence à travailler.
Ça va être tentant, M. Rodriguez, parce que c'est à cause du charisme.
C'est à suivre.
Oui. Ottawa, un sondage Abacus Data qui place les conservateurs à 50 % alors que les libéraux font face à un ultimatum du Bloc.
Oui, j'ai vu ça passer, c'est lundi au téléjournal. Écoute, 50 % le chiffre, je l'ai ici. Ça frappe. C'est la première fois qu'on voit ça, 50 % Bon, il y a d'autres sondages qui sont sortis hier, 44. Bon, ça varie d'une firme à l'autre. Chose certaine, ça marche plus plus au PLQ, là, au PLC plutôt. Ça ne fonctionne plus. Bon, on voit le cirque se poursuit de jour en jour. Le Blanchet sort, Singh sort. C'est un vrai spectacle. Bon, l'ultimatum du Bloc, je trouve... Bon, il y a eu un vote hier, puis les libéraux ont voté contre. L'affaire pour les bonifier les primes, pas les primes, mais les pensions pour les aînés de 65 à 74. C'est une drôle de situation.
Tout à fait.
Parce que, bon, le Bloc revendique ça au nom de tous les Canadiens. Depuis quand que son travail, c'est de faire... The rest of Canada, c'est pas vraiment... ça a toujours été le Québec, les Québécois. Là, il est en train de s'embarquer dans quelque chose qui, oui, va bénéficier à l'ensemble des Canadiens. Donc, ça envoie un drôle de message. Et moi, ce qui m'écœure un peu dans le débat, puis ce que j'ai entendu hier, c'est que de plusieurs chroniqueurs, là, c'est est-ce que les libéraux ont vraiment intérêt à faire ça, c'est-à-dire de bonifier les pensions, une mesure qui va coûter des milliards, qui va ternir encore plus leur image de dépensier pour se gagner quelques semaines ou quelques mois au pouvoir.
C'est envisageable des élections dans le temps des fêtes. Là. Tout est envisageable.
Mais tu sais, on est en train de jouer avec la vie du monde, puis les citoyens, puis les cadeaux, puis les gains pour de la petite game politique. Pis c'est ça que j'aime pas dans une situation de gouvernement minoritaire en fin de vie, là, disons-le. Là, le gouvernement a une date d'expiration. C'est qu'on est en train de faire de la politique sur le dos du monde, puis en pleine vue là, de tout le monde. Là, puis jour après jour, puis ça va être comme ça jusqu'à temps que le gouvernement tombe.
Bon, la motion du Bloc hier, ça a été votée favorablement, mais le gouvernement peut en faire ce qu'il veut.
Oui, absolument.
Il va en faire ce qu'il veut,
absolument.
Si on a bien compris.
C'est une game. Est-ce que vraiment Blanchet... Ben, de toute façon, Blanchet, à lui seul, peut pas faire tomber le gouvernement avec les conservateurs. Ils sont pas assez pour le faire si le NPD vote du côté des libéraux. Ouais. Tout reste à voir. Mais
pour un amateur de politique, ça demeure fort intéressant.
C'est intéressant, mais en même temps, c'est très cynique, je trouve. C'est très cynique, puis ça alimente le cynisme.
Allons vers les cyniques en chef de l'autre côté de la frontière. Tiens donc, on parle de débat des colistiers. C'était avant-hier, M. Walls et M. Vance qui ont débattu.
Oui, je l'ai écouté.
De façon quand même... c'est ce que doit être un débat, en quelque sorte, là, ce que n'a pas été le débat entre M. Trump et Mme Harris.
On est tellement habitué au débat de chat de gouttière depuis un certain temps avec M. Trump. Écoute, je l'ai écouté du début à la fin. Mm-hmm. Le soir même, je trouvais que c'était un match nul. Mais avec en revoyant des reprises depuis, je te dirais que Vance paraît plus solide. Ce que j'ai trouvé chez Vance, donc qui est le co-listier de Trump, qui est un mini-Trump, en quelque sorte, parce qu'il est très MAGA, il a paru présidentiable. Il a paru solide, il a paru comme...
Regardez, c'est un avocat, c'est un fin débatteur.
C'est un très bon orateur.
Oui.
Donc, il était solide. M. Walls, en contrepartie, bon, un, il prenait plein de notes, on ne sait pas pourquoi, il n'arrêtait pas de prendre des notes tout le long. Puis deux, il avait l'air un petit peu... Lui-même s'est traité de knucklehead, là, une espèce de fanfaron. Il avait l'air fanfaron par bout, ses expressions faciales, on voyait qu'il était sur ses gardes. Il n'avait pas l'air trop solide.
Tout le monde s'appelait.
Hein?
C'est Monsieur Tout le monde. Ça
Mais affaire. Je pense qu'il est sorti. Il n'a pas aidé Harris, mettons. Tandis que Vance, quand même, je pense qu'il a aidé Trump dans le sens qu'il a montré qu'il y a, il y a un adulte dans la pièce à côté de Trump.
Cela dit, l'idée était de séduire les indécis.
Est-ce qu'il a réussi à le faire? Ça reste à voir. Mais je pense que aux yeux de son parti, il s'est montré comme je suis solide. Puis surveillez-moi. Puis tu sais, je suis là. Est-ce que ça va changer de quoi au vote? Un sondage éclair mené par CNN, on va dire, là, plaçait Vance à 51, Walls à 49 au niveau de qui a gagné.
Okay.
Et apparemment que ce débat-là aurait influencé, aurait permis à 1% des auditeurs de changer d'idée. On le sait, historiquement, les débats des VP ne changent pas grand-chose au grand portrait. Cette fois-ci, est-ce que c'est différent parce que c'est si serré? On verra bien.
Mais ça demeure un spectacle, il faut le dire aussi.
C'est un spectacle, mais ça s'est quand même fait de façon courtoise et je trouve respectueux ce débat.
Comme ce que nous faisons, nous, semaine après semaine.
Toutes les semaines, en effet.
Ben, nous deux, courtois et
toujours.
Hey,
toujours.
Passe une bonne semaine.
Toi aussi.
Dans les prochaines minutes, je m'entretiens avec Marc Frappier, les professeurs donc, à l'Université de Sherbrooke. On parle de la création de ce pôle sur la cybersécurité.